Radio Résistencia.
Nous sommes en compagnie de Christine Chapuis. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans Radio Résistencia. Vous êtes membre aussi de la commission de l'égalité de l'Université de Genève. Je vous ai vu beaucoup sourire pendant cette chronique et cette interview de Karla Lagerfeld. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça m'inspire.
Il y a des bêtes qui montent sur moi, merci des de m'avoir. On est en pleine nature, c'est pour ça. Oui.
Et il fait beau. Ça m'inspire du rire, mais ça m'inspire aussi des larmes, parce que les choses n'avancent pas. C'est vrai que je suis membre de la délégation à l'égalité, qui fonctionne au sein de l'université tout entière. Nous allons, la délégation envoie dans les commissions de nomination des membres du corps professoral, des membres de sa délégation, pour essayer de faire avancer la cause des femmes. C'est vrai que nous recevons des dossiers, il faut examiner les dossiers, il faut évidemment que la compétence l'emporte, c'est sûr, mais il faut aussi faire attention à ce qu'on ne fasse pas la part petite aux femmes qui font acte de candidature dans ces procédures. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Cette participation aux commissions de nomination dans toutes les facultés me donne un observatoire assez intéressant de l'université tout entière et de la difficulté qu'il y a pour les femmes à avancer, pour les hommes aussi bien sûr. Mm-hmm. Ce sont des circonstances difficiles aussi pour les hommes, mais la difficulté pour les femmes de faire leur place à l'université, parce que les chiffres ne sont pas bons.
Justement, je vous écoute et vous dites on essaye avec une petite grimace de faire avancer. Donc ça veut dire que c'est très très difficile de faire avancer les choses à l'université. Pourquoi, à votre avis? Après, on va revenir sur les chiffres, bien entendu.
Parce que je crois que ce n'est que le reflet de ce qui se passe dans la société de manière générale, en réalité. Je sais, pour l'avoir vécu, que les rectorats successifs et celui-ci en particulier font deux grands efforts pour que les choses avancent, pour que la situation des femmes s'améliore. De grands efforts, mais il est très difficile que ces efforts soient couronnés de succès, quelles que soient les mesures proposées ou prises d'en haut, vues d'en bas, elles paraissent insupportables.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui est insupportable ?
Mais parce que ce qu'on veut, c'est l'excellence, bien sûr, et on ne va quand même pas faire passer une femme qui n'est pas bonne devant un homme qui est meilleur.
D'accord.
Ça, c'est le discours qui est généralement tenu, c'est ce qu'on considère de l'extérieur. À vrai dire, quand on voit les choses de l'intérieur, il est rare, je crois que je n'ai encore jamais vu, qu'on pouvait être tenté de faire passer un dossier de femme moins bon devant un dossier d'un homme meilleur. En réalité, les choses de la quantification des dossiers est une opération extrêmement délicate. Dire « ce dossier est meilleur que tel autre » est une évaluation extrêmement difficile à faire. Selon le critère auquel on accordera le plus de poids, le dossier A l'emporte sur le dossier B, et si l'on prend en compte un autre critère, c'est le dossier B qui l'emportera sur le dossier A. Ce qui fait que favoriser les femmes dans une telle situation, ça ne signifie pas faire passer une femme nulle devant un homme excellent. En réalité, ça signifie souvent évaluer différemment des dossiers, les uns par opposition aux autres. Et donc, ces mesures qui sont proposées par le rectorat, dont l'une d'entre elles consiste à essayer d'obtenir que 30% des candidatures au moins dans une procédure soient des candidatures de femmes, et puis ensuite qu'on ait 30% au moins de candidatures féminines dans ce qu'on appelle la shortlist de ces personnes que l'on va entendre. Ce n'est pas tout simplement faire passer les mauvaises devant les bons, c'est aussi quand on hésite sur la comparabilité de deux dossiers, quand on hésite de savoir lequel des deux l'emporte, eh bien l'hésitation penchera plus aisément en faveur de la femme.
En faveur de la femme. J'ai quelques chiffres sous les yeux, vous allez peut-être confirmer ou infirmer, c'est le Temps qui a publié ça, une seule femme à la tête des universités et des EPF. La direction de l'académie reste toujours une affaire d'hommes, une exception, l'université de Saint-Gall où 3 postes clés sur 5 sont occupés par des femmes. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Bon, c'est des chiffres un peu au niveau national, hein, puisqu'on parle aussi de l'université de Saint-Gall.
Je n'ai moi-même pas de chiffres sous les yeux, mais ce qui est clairement confirmable, c'est qu'à la direction de n'importe quelle institution, qu'elle soit publique ou privée, on trouve extrêmement peu de femmes. Il n'y a donc pas tellement de raisons qu'on en trouve plus à la tête de l'université, des universités, qu'à la tête des grandes sociétés privées. En revanche, les choses avancent un peu. Le nouveau rectorat de l'Université de Genève sera composé sur 5 membres de 2 femmes.
2 femmes. Bon, c'est déjà ça, mais bon, c'est pas...
Le recteur est un recteur.
Oui. Christine Chapuis, si vous aviez, bon, c'est un peu la question, c'est la question qui tue, hein, ce genre de question. Manon, vous allez me confirmer. Si vous aviez une baguette magique et si vous étiez rectrice, enfin recteur de l'université, vous feriez quoi ? Commencez par quel bout ?
Le problème, c'est qu'on ne peut pas commencer par un bout, c'est qu'il faudrait tout faire en même temps. J'aimerais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup frappée. Nous avons lancé un nouveau programme dont les cours se déroulent une fois que les cours universitaires sont terminés, parce que c'est un programme qui est un programme à cheval entre l'université et la pratique. Donc les cours se donnent les soirs à 6h, le vendredi après-midi et le samedi matin. Nous avons eu affaire à des réactions très fâchées, mais même d'hommes disant que notre nouveau programme était anti-femme parce que les cours se déroulaient à des moments où les femmes ne peuvent pas venir prendre des cours. Ce qui m'a évidemment terriblement ennuyée dans un premier temps, mais ensuite j'ai réalisé pourquoi est-ce que c'est une heure qui ne convient pas pour les femmes ? Parce que c'est elles qui sont censées s'occuper des enfants.
Oui.
Et pour ce seul motif, c'est un horaire qui ne convient pas pour les femmes. Mais si ce sont les femmes qui sont censées s'occuper des enfants, aucun horaire ne peut convenir pour une femme. Donc, alors que ce jeune homme voulait être favorable à la cause des femmes, à la nôtre, en réalité, il sciait la branche sur laquelle nous tentons si difficilement de nous asseoir. Et cette histoire montre à quel point c'est difficile de faire quoi que ce soit. Je crois qu'il y a des mentalités à changer. Mais des mentalités à changer partout, pas seulement chez les hommes, chez les femmes aussi. Et ça, je ne sais pas si un recteur, une rectrice, même avec une baguette magique, peut agir là-dessus. Il y a une chape de plomb dans la société. Les enfants restent la charge principale des femmes. D'ailleurs, j'en suis ravie. J'ai eu des enfants, j'étais absolument ravie de m'en occuper. Mais tant qu'on va continuer de considérer que c'est la tâche première des femmes, nous ne pourrons pas faire avancer quoi que ce soit.
Christine Chapuis, merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez encore quelque chose à rajouter par rapport à cette journée du 14 juin, quand je vous ai contacté, vous m'avez dit je suis en train de corriger beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, donc j'aurai pas le temps, forcément le temps, mais ce sera ma participation pour le 14 juin. Qu'est-ce qui vous inspire la journée du 14 juin, et surtout les femmes qui se sont mobilisées aujourd'hui pour des différents événements. On a parlé tout à l'heure avec Lorena Parini, politologue et aussi professeur aux études genre de l'Uni de Genève, qui me parlait d'un événement, d'une action qu'ils ont créée à midi dans le hall de l'université. Qu'est-ce qui vous inspire ce type d'investissement et de militantisme ?
Eh bien, il y a 20 ans, lors de la première grève, j'avais regardé ça d'un air un peu amusé parce que je me disais, les choses vont changer, ce n'est pas possible. C'est tellement évident. Il n'y a pas besoin de se mobiliser. Je vais m'habiller de rose parce que j'aime bien le rose, mais ce n'est pas vraiment nécessaire.
Je confirme, vous êtes habillée en fuchsia, en fait.
Fuchsia, exactement.
C'est
rose,
la couleur du genre.
Rose,
oui.
Mais le fuchsia,
exactement.
Le vrai fuchsia.
Je le confirme.
Et je m'étais dit que les choses allaient changer toute seule et que c'était sympathique de manifester, mais que ce n'était vraiment pas nécessaire.
C'est gentil.
Les années ont passé et l'impatience m'a gagnée, ce qui fait que j'aurais voulu manifester, mais je crois que les étudiants qui attendent les notes n'auraient pas été ravis que je prenne mon après-midi plutôt que de corriger. Mais en revanche, ma participation, ça va être de venir ici. Je suis ravie que vous m'ayez offert cette possibilité parce que je crois qu'il faut Quoi que nous puissions faire, il y a toujours des côtés négatifs. On fera toujours sourire en défilant, on fera toujours sourire en s'habillant en rose, on fera toujours sourire, non, on va fâcher lorsqu'on dira « vous devez nous proposer 30% de femmes au moins ». On va fâcher lorsqu'on dira « eh bien c'est un dossier où l'on aurait pu hésiter, mais on va faire passer la femme d'abord ». On va faire sourire jusqu'à faire fâcher, mais il faut faire quelque chose parce que les choses, elles l'ont montré, elles ne bougent pas toutes seules. Oui. Donc il faut les aider. Donc je fais ce qui me faisait sourire il y a 20 ans. Maintenant, je m'engage dans des actions qui peut-être ne sont pas efficaces, qui peut-être ne sont pas utiles, mais c'est encore moins efficace et encore moins utile de ne rien faire du tout.
Merci beaucoup Christine Chapuis d'être venue aujourd'hui en direct sur Radio Résistance. On vous laisse à vos travaux. C'est vos étudiants, vous êtes prof à l'université de droit
La faculté de droit de l'université de Genève.
Voilà. Donc je vous souhaite une belle après-midi, passez un bon 14 juin. J'espère que vous allez rencontrer beaucoup de femmes et d'hommes habillés en fuchsia comme vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis de toute façon, on se retrouve tout à l'heure sur 96.0 Radio Resistencia et en direct sur Fréquence Banane, en direct en streaming sur Internet.
Un peu plus sucré, oui. Un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, oui. Un peu plus court. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, un peu moins cher. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, un peu plus noir. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Ils me demandaient sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. J'aime bien être seul et j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps, un peu moins longtemps. Il me demandait sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Vivre et hésiter, et ça, vous pouvez bien me comprendre. À droite, un peu plus à gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne? Si sa che la gente da buoni consigli si deve scoprire sul tempo, si sa che la gente da buoni consigli si deve evitare cattivo esempio.
giusto. E rivolgendo se le cornute, le apostrofo a copo l'orgute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario, dissero senza profrasare. Quella schifosa già troppo clienti, più di consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Cuore tenero non da dato di cui siano colmi carabinieri. Ma quella volta prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Alla stazione c'erano tutti dal commissario al sacristano. Alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il capello in mano. A salutare chi per un poco senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma non esiste originale, non ha bisogno da congelare. Come una freccia dall'arco scoccava la veloce di bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi c'è un fiore, chi si prenota per dolore. Persino il parroco pieno di sprezza fra un miserere e un'estrema unzione. Il bene fibro della bellezza lavora accanto in processione. E con la vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta spesso a riprese l'amore sacro, l'amor profano.
Voilà, excusez-moi, j'ai été surprise moi-même, David.
Oui, le micro était un peu en avance aussi. Hein.
Oui, oui, mais tout
c'était bien
en
cette
avance,
musique justement. Italienne choisie par Mireille Senn.
Oui, c'est toujours Mireille Senn qui choisit.
Bah, c'est la DJ officielle de la chanson féministe. C'est une histoire de Bocca di Rosa, une prostituée qui arrive dans un village italien, elle m'a raconté, et qui se fait très bien accueillir par les petites gens et puis virée, entre guillemets, par les bien-pensants. Mm-hmm. Et apparemment, la scène finale, ce sont les petites gens qui aiment beaucoup Bocca di Rosa qui lui disent au revoir, tu nous manques déjà.
Ah, c'est bien, c'est bien. Bocca di Rosa, musica nuda, vous avez aimé, Manon Pulver.
Beaucoup, beaucoup.
Voilà, et nous sommes en communication avec Jessica da Silva qui est là dans la manif. Comment se passe la manif, Jessica?
Eh bien, très bien, nous venons juste de traverser le pont du Mont Blanc, voilà.
Oui.
On peut à peu près remarquer qu'il y a à peu près un tiers d'hommes en tant que manifestants, mm-hmm. un tiers timide, mais au moins c'est symbole d'espoir. Et puis là, je suis à côté de Françoise, hein, qui fait partie des vieilles femmes indignées. Alors 20 ans après, elles ont remis ça, elles sont redescendues dans la rue. Elles avaient déjà manifesté en 1991. Et puis d'ailleurs, pour l'anecdote, la nouvelle génération a ressorti leur devise de 1991, la devise qui était « Les femmes bras croisés, le pays perd pied ».
Ah, oui, oui. Oui, c'est vrai.
Françoise, qui est à côté de moi. Françoise était sociologue. Françoise, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, pourquoi 20 ans après, vous êtes de nouveau ici, dans la rue?
Bon, bah parce que, en fait, tout simplement, il y a un certain nombre de choses qui ont été acquises, mais il y a aussi une très, très grande régression sociale qui affecte en grande partie les femmes. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire qu'on est là parce que le droit, l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans le droit, mais dans les faits, elle ne l'est pas. Voilà.
Dans le manifeste, on peut lire que vous dites que par rapport à la situation de 1991, en 2011, c'est encore plus difficile de pouvoir revendiquer des droits. Pourquoi ?
Parce que le néolibéralisme est passé par là, et puis qu'effectivement, il frappe, du point de vue de l'emploi, par exemple, majoritairement les femmes. Il y a aussi tout le problème des femmes migrantes qui, en fait, travaillent dans nos foyers et qui s'occupent de nos enfants et de nous, d'ailleurs, bientôt, puisque nous, on est plutôt les vieilles dames indignes et indignées. Donc, en fait, on se sent très solidaires de toutes ces femmes qui, soi-disant, vont prendre soin de nous. Je veux dire, donc, voilà, on est là pour ça.
Est-ce que 20 ans après, Françoise, vous avez l'impression que les mentalités ont quand même changé? Est-ce que le mouvement a évolué? Il est beaucoup plus mixte?
Dire qu'il est beaucoup plus mixte, il y a quelques hommes, effectivement. Je veux dire, et c'est bien qu'ils y soient. C'est bien que les consciences évoluent. Mais, en fait, pour beaucoup de gens, ils ont l'impression qu'en fait, tout est déjà acquis. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Je veux dire, la précarité touche majoritairement les femmes. Le temps partiel contraint touche aussi majoritairement les femmes. Les femmes touchent des salaires qui sont inférieurs de 20% à ceux des hommes pour le même emploi, ce qui se retrouve évidemment au niveau de la retraite, puisque beaucoup d'entre nous avons soit arrêtés pour s'occuper, pour nous occuper de nos enfants et de la famille, soit ont eu des emplois à temps partiel. Donc on touche des retraites qui sont ridicules. Énormément de femmes sont dans cette situation. Merci beaucoup Françoise. Alors comme vous avez pu l'entendre, le troisième âge est aussi concerné. Hein, ce n'est pas seulement la jeunesse en pleine expansion.
Jessica, merci, merci beaucoup pour votre intervention depuis, depuis la manif. Ça fait toujours du bien d'entendre les vieilles femmes indignes qui sont toujours là 20 ans après. C'est un exemple. Et puis tout à l'heure, on va diffuser peut-être aussi un extrait d'une émission qui a été diffusée sur la TSR en 1991 où les personnes retraitées étaient effectivement extrêmement actives et présentes il y a 20 ans. Jessica, on vous retrouve tout à l'heure pour peut-être une dernière intervention depuis... la manif, vous êtes où déjà?
Alors on arrive bientôt dans les rues basses, voilà, on a traversé le pont du Mont-Blanc. Alors merci Miruna.
Merci Jessica, je vous retrouve tout à l'heure en direct sur Radio Resistencia 96.0, une radio réalisée en collaboration avec Fréquence Banane et les gens absolument incroyables de Fréquence Banane. Je le dis, je le répète, je le dirai et je le dirai jamais assez, Adriano Piteri et puis Jessica Da Silva qui est notre envoyée spéciale pour la manif de ce 14 juin 2011. Venez nous retrouver ici, au Parc des Bastions, près de la scène de la crypte. Radio Resistencia vous appartient. Vous pouvez venir pour faire, pour nous raconter votre 14 juin, amener des amis, des amieux, pour qu'on partage cette journée ensemble sur 96.0. Vous écoutez Radio Resistencia.
Radio Resistencia!
Some people just talk. tous un peu Latin Lover. Tino, Julio, bronze crooner. Elles ont tout en elles une Marilyn. Dietrich Marlène et Pearl Catherine. On a tous au fond du cœur cette brume de chaleur qui vient caresser l'épaule des danseurs. Un bout de bois mort, une histoire sans suite. Qu'est-ce qu'un corps sans le cœur qui palpite? Un documentaire sans commentaire, container frigorifique. Qu'est-ce qu'un corps sans le cœur qui palpite? Satellite Cap Canaveral, plus on communique, moins on se parle. Plus on avance, plus on est loin. On a du mal à se faire du bien. Milliards de frangins, de frangines, voisines, voisins, cousins, cousines. Milliards d'orphelins, d'orphelines qui rêvent d'une vie moins imbécile. Un bout de bois mort, une histoire sans suite. Qu'est-ce qu'un corps sans le cœur qui palpite? Sans commentaire, container frigorifique. Qu'est-ce qu'un corps sans le cœur qui palpite? On a tous au fond du cœur cette brume de chaleur qui vient caresser nos épaules de danseurs.